Bonjour, je m'appelle Sylvain Desmentis. Vous écoutez le Club Desmentis, oui, c'est ça que vous écoutez. Et aujourd'hui, on va se parler d'un livre assez difficile. Ça s'appelle La Nuit. C'est écrit par Elie Wiesel. Et ben, avec moi, pour en parler, ça a l'air de ça. Moi, je l'ai en anglais, traduit par sa femme, et j'en reparlerai plus tard. Mais pour en parler avec moi, des personnes absolument formidable, qui ont accepté de lire cette atrocité, de venir en parler avec moi. Jeff, bonjour Jeff.
Salut.
Jeff Ouellet.
Yes.
Maps, bonjour
Bon matin.
Maps. Et José, depuis
Salut.
PM à la page. Bonjour José. Là, vous remarquez mon ton, je vous avoue que je ne sais pas trop comment m'embarquer là-dedans. Je suis un peu. C'est quand même un monument et on va avoir beaucoup de choses à discuter. Par rapport à ce livre-là, je vais dire un petit bonjour à Magali qui vient de se joindre à nous. Et donc, de quoi ça parle? Ben, je vous fais le speech habituel. C'est un club de lecture, donc on va parler de ce livre-là de fond en comble. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à spoiler parce que ben, l'histoire, on la connaît. Et donc, c'est ça. On va parler de ça, de ce livre-là. C'est La Nuit, ça parle donc. D'Elie Wiesel, c'est un récit. C'est comment il a été avec sa famille enlevé et amené à Auschwitz, et où il a été emmené dans un camp de concentration. Et puis comment il a, par miracle, réussi à survivre à ça. Donc voilà, je suis un peu bouleversé par cette lecture-là et par ce récit-là. On va en parler. Donc Jeff, qu'est-ce que tu as pensé de La Nuit?
Personnellement, je l'ai lu deux fois. Ma première lecture, c'était une des lectures les plus difficiles que j'ai eu à faire depuis que je suis capable de lire, je pense. Puis bon, c'est exponentiellement de plus en plus épouvantable de chapitre en chapitre, là. On s'entend, bon, de où ce qui part au début avec sa famille, puis tu te rends compte qu'ils n'ont aucune idée vraiment que le front qui s'en vient, c'est pas nécessairement ça. Ils n'ont pas connaissance des camps de concentration, sont vraiment très innocents par rapport à ça. Puis là, ben, ça va escalader justement jusqu'à la fin de la guerre, là. Moi, au chapitre 5, la page 107 sur 178, j'ai pris une semaine off. Moi, ouais, j'ai arrêté, puis j'étais comme, moi, je sens pas que je suis prête d'un coup à faire le voyage au complet, tu sais. Puis je trouve pas, Sylvain, je trouve pas que c'est une lecture du mois d'août. C'est pas une lecture ensoleillée comme le mois qu'on a eu. Puis là, ma première, mon début de lecture, dans le fond, moi, j'aime bien aller au petit parc à côté de chez nous, puis je m'assieds en dessous d'un arbre, pieds nus, puis tu sais, je lis. Puis là, ça fitait pas pantoute. Ça fitait pas pantoute avec mon environnement, avec là, tu sais. Je me suis dit, OK, il faut vraiment que tu prennes un step down, puis le prendre pour ce que c'est, là. Tu sais, c'est un récit d'abomination, tu sais. Mais ce que j'ai généralement, ce que j'en ai retiré de positif de cette lecture-là, c'est le cheminement d'Elie Wiesel, le personnage principal, qui a une foi incomparable. Dans le fond, c'est comme, même si ça peut tuer sa foi, il y a quand même de l'humanité dans cette personne-là tout au long du récit, il va soutenir son père tout au long. Il ne veut pas le laisser tomber, même si tout il pourrait permettre de dire, regarde, je laisse tomber, puis je m'occupe juste de moi pour en sortir vivant. Il y a toujours la famille avec lui, il y a toujours Dieu avec lui, tu sais. Même si à un moment donné, il sait qu'il y a une absence de Dieu par rapport à tout ce qui se passe, mais est-ce que c'est des épreuves qu'il est mis sur son chemin pour devenir plus grand, tu sais, rendu là, l'espèce de côté spirituel du récit, il est très fort dans le personnage de Litzer, puis ça, je trouvais ça intéressant. Pour tout ce qui est du reste autour, ben, il n'y a jamais vraiment de bon moment pour découvrir qu'est-ce qui se passait à Auschwitz, puis moi, j'ai des amis qui sont très intéressés par la Deuxième Guerre mondiale, qui ont lu énormément de matériel. Moi, j'ai pas cette attirance-là par les matériels véridiques à ce point-là, sur cette violence-là. Sylvain le sait, je suis un gros fan de cinéma d'horreur, de littérature d'horreur. J'aime la fiction, j'aime le côté fantaisiste, le côté de s'évader du monde dans lequel on vit par le biais d'histoires fantaisistes, le fun, même si ils peuvent être un peu épeurantes par-ci par-là, ça sera jamais aussi pire que la nuit. Je veux dire, il n'y a rien de pire que ça, un holocauste, là, dans le sens où ça l'a amené les gens à plus comprendre ce qui était réel de l'irréel. Tu pouvais comme tout vivre d'une journée à l'autre, puis à un moment donné, tu laisses tomber parce que demain, ça va être pire qu'aujourd'hui, mais ça, comment ça peut être pire, on le sait pas. Tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Première lecture. Deuxième lecture, là, ça a été hors d'onde, on s'est dit qu'on allait en parler, mais c'est comme il y a une controverse par rapport au fait que Elie Wiesel ne serait peut-être pas allé à Auschwitz puis aurait utilisé des témoignages pour l'utiliser à son avantage pour écrire un roman et tout ça. Tu sais. Fait qu'on en reparlera, mais ça me donnait envie de le relire avec un œil un petit peu plus « je le prends pour ce ben, tu sais, ça, c'est arrivé quand même », mais ça l'enlève un petit peu le degré de le direct avec le personnage principal. On dirait que ça fait une cassure, puis tu es capable de peut-être te détacher un peu puis d'analyser un peu plus. Tandis qu'à ma première lecture, c'était pas dans l'analyse, c'était tout dans le ressenti. Là, fait que c'est, ouais, c'est un peu ça. C'est un livre hyper important que je recommande, mais tu sais, mettons, à attacher votre tuque, là, je sais plus quoi dire.
Soyez prêts.
Ouais, c'est ça.
Puis peut-être pas en nous.
En même temps, tu me dis de lire ça au mois de novembre, puis je fais une dépression pour le reste de
l'hiver. Ben, c'est ça, là. Moi, je peux pas lire ça en février, mars. Il n'y a pas de bon moment pour lire ça.
Ouais, c'est juste le faire, je pense.
Ouais.
Pas en dessous d'un arbre quand il fait beau soleil.
Il va peut-être finir par tomber en amour, on ne sait pas, non. C'est pas ça. Maps, qu'est-ce que tu as pensé de la nuit?
Oui, ben c'est le fun d'entendre Jeff parler de ça parce que moi, j'ai appris beaucoup d'histoires grâce aux romans et aux histoires, aux livres écrits sur la Deuxième Guerre mondiale. Moi, tout au long de mon secondaire, là, s'il avait voulu m'apprendre quelque chose, j'aurais dû me donner des livres à lire, j'aurais appris des dates. Parce que c'est de même que j'ai appris les dates de la Deuxième Guerre mondiale, c'est en lisant une tonne de livres sur le sujet. Fait que c'est sûr que mon expérience comparée à Jeff était un petit peu différente. J'ai lu Une vie de Simone Veil, j'ai lu Si c'est un homme de Primo Levi, j'ai lu Le chant du rossignol de Christine Anna, j'ai lu Le pianiste, Le tatoueur d'Auschwitz. J'en ai lu en s'il vous plaît, des romans qui parlent, ben des romans, des livres qui parlent de ça, fictifs ou non. Donc, il y avait ça au départ. C'est un livre qui se lit étrangement, malgré tout, bien. Je trouve que, tu sais, l'écriture n'était pas plus ardue que nécessaire. Je trouve qu'il y avait une certaine fluidité là, dans l'ouvrage, que comme, ben, tu sais, t'es dans l'histoire, puis tu tournes les pages parce que tu veux savoir comment il va réussir à s'en sortir, parce qu'il s'en est sorti, parce qu'il a écrit ce livre-là, tu sais, forcément. Mais j'ai eu un énorme sentiment de déjà-vu, en fait, de déjà-lu. Et là, je suis contente que tu sois là, Josée, parce que c'est ta sœur qui m'avait prêté son exemplaire de « Si c'est un homme ». Puis, j'ai vraiment eu l'impression de relire ce livre-là, quasiment détail par détail. Fait que ça me... Tu sais, à un moment donné, j'étais dans ma lecture, puis j'étais comme « OK », puis j'étais comme « Oh mon Dieu, mais je l'ai-tu déjà lu la nuit? » Puis là, je suis retournée sur mon Goodreads, puis j'étais comme « Non. » Mais des moments comme la fin, tu sais, lorsqu'ils sont en train de sauver, je cherchais dans quel ouvrage j'avais lu cette scène-là, mais forcément, tu sais, raconter son histoire, si tout le monde a vécu similairement la même histoire, ça peut donner ce sentiment de déjà lu là. Fait que je sais pas si c'est ça. Mais lorsque j'ai pensé à ce livre-là, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un calque sur Si c'est un homme, mais de manière beaucoup plus succincte. Parce que si c'est un homme, il y a quand même, on est plus dans des détails. Là, c'est sûr qu'on est de la perspective d'un Italien, là, mais quand même dans ce qui se passe. Fait que ça a été un drôle de feeling pour moi. Mais c'est sûr que c'est une lecture bouleversante, troublante, puis c'est parce que c'est arrivé, tu sais, que tout ça est d'autant plus moins le fun à lire.
Ouais.
Ouais. Voilà.
Ben, merci Maps et José. Qu'est-ce que tu as pensé?
Ben, en fait, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, ce que j'ai trouvé épouvantable à lire, c'est faire le parallèle entre ce qu'ils ont vécu entre ce qu'ils disent inhumain et ce qui se passe à Gaza en ce moment avec les bêtes d'Israël. Ça m'a fait mal, ce bout-là. Je vous avouerai là, que c'est ce que j'ai trouvé le plus dur. C'est pas tant ce qui s'est passé parce que, en fait, oui, ce qui s'est passé, c'est abominable. Il n'y a aucun mot pour décrire l'abomination puis l'horreur de ça. Sauf que moi, la toute première fois que je suis rentrée en contact avec l'Holocauste, j'avais à peu près 10 ans. C'était une série qui avait passé à Télémétropole à l'époque. Ça s'appelait Holocauste, je pense. Puis c'était Alain Stanquet qui présentait les émissions puis il montrait son numéro. Puis, je suis comme tombée en espèce de fascination contre cette période-là. Et depuis cette période-là, même si j'étais très jeune, j'ai toujours été attirée pour comprendre comment ça se fait que l'humain est à ce point-là abominable. Puis, des fois, j'imagine, tu sais, une espèce d'extraterrestre qui nous regarde de loin et nous dit « Mais gang de tarés! Mm-hmm. » On se partage toute une petite boule, puis on se déteste à ce point-là, à se détruire de la façon la plus abjecte possible. Puis quand j'ai lu ça, puis j'ai commencé à lire ça, puis tu sais, je me disais, mais mon Dieu, vous faites la même chose. Il n'y a pas de mots pour décrire mon ressenti. Puis des fois, j'avais presque envie de garrocher le livre au bout de mes bras juste pour dire, mais mon Dieu, vous nous mettez en garde pour la suite et vous êtes les premiers auteurs à faire ça en ce moment. Puis là, moi, tu sais, évidemment qu'on parle dans un contexte de 2025, il y en a eu d'autres génocides entre ça. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile à lire. Puis je me disais, ça serait peut-être une bonne idée de remettre ce livre-là au goût du jour dans les mains de plusieurs personnes, justement, pour pas ce qui s'est passé avant, mais ce qu'on s'amuse à reproduire. Et c'est toujours en se donnant l'impression que cette fois-ci, on a raison. Parce que, tu sais, les nazis, quand ils ont fait ça, ils avaient raison. Puis moi, il y a une phrase que j'ai mise dans le livre, que j'ai soulignée, c'était, je me souviens pas exactement les mots exacts, mais ce que ça disait, c'est que moi, la seule personne à qui j'ai confiance, c'est Hitler, parce qu'il a toujours tenu ses promesses.
Mm-hmm. Ouais.
Oh mon Dieu, j'ai trouvé que cette phrase-là était tellement forte. Puis effectivement, tu sais, Maps, c'est sûr qu'on relit toujours ces mêmes histoires-là parce que leur quotidien était fait que de souffrances et que de petites souffrances. En fait, c'était la même souffrance répétée inlassablement. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on revoit toujours ça. C'est le même bunker, c'est les mêmes foudres, c'est les mêmes capots, c'est les mêmes atrocités. Fait que, c'est sûr qu'un témoignage comme ça, mais on s'en sort pas. Tu sais, moi, ce que j'ai aimé, par contre, c'est je me cherchais un livre sur les marches de la mort quand les camps ont ouvert. Puis j'ai trouvé ça le fun, ben, mon Dieu, quel mauvais mot, en fait. J'ai trouvé ça intéressant d'avoir cette vision-là des marges de la mort. Puis moi, dans ma vision, c'était encore plus monstrueux que ça, là. Genre, à la première chute, c'était la mort, là. Il n'y avait pas... J'ai trouvé que des fois, il y avait comme un peu... Il y avait comme du pardon, tu sais. Le père aurait dû, normalement, mourir à plusieurs reprises parce qu'il n'y était pas... Il n'était pas dans la force, il n'était pas dans le pouvoir, il était vraiment un être malade et faible. Ça m'a un peu étonnée. Par contre, il n'était pas nécessairement à Auschwitz, il était à Buna, qui était dans un camp de travail associé avec une espèce de grande usine. Fait que c'est peut-être à cause de ça. Puis vous savez que Auschwitz, ça c'est pas le vrai nom, hein, parce qu'en polonais, c'est Auschwitz que ça s'appelle.
OK.
Parce que quand les Allemands sont arrivés en Pologne puis qu'ils ont découvert ce grand complexe-là, après avoir mis tout le monde, allez-vous-en, on réquisitionne cet énorme territoire, ben ça s'appelait, là mon polonais est épouvantable, mais c'est Auschwitz, tu vois, du genre. Puis l'autre, ben ils l'ont mis en allemand, fait que c'est devenu Auschwitz. Puis je fais juste une petite parenthèse drôle, ma fille est allée en Pologne. Puis je savais qu'elle allait dans ce coin-là, puis j'ai dit, écoute, Marie-Hélène, j'ai dit, peu importe ce que ça coûte, je vais te payer le billet. Si ça t'intéresse, j'aimerais que tu ailles voir ça. Puis ça coûtait 13$ aller voir ça. Puis on fait tout le circuit avec un guide. Puis quand elle était dans le train pour se rendre sur les lieux, elle a demandé à des Polonais, on aimerait aller à Auschwitz, je peux vous assurer que la face qu'ils ont faite. Et c'est là qu'elle a su que ça portait pas ce nom-là. Fait que même dans notre vision, on attribue encore, dans le fond, aux Allemands, le nom qu'ils avaient donné, alors qu'on a changé, tu sais, c'est plus Kiev maintenant, c'est Kiev. On devrait avoir ce réflexe-là de donner le bon terme polonais à ce sujet.
Ouais.
Pour dire, ce livre-là, à mon avis, est essentiel, qu'il soit écrit comme un témoignage réel ou comme un roman. Il demeure essentiel, puis il devrait avoir un avertissement. C'est, hey, arrêtons, là. Arrêtons, là. Fait que c'est ça. Puis quand est-ce qu'on peut lire ce livre-là? Ben, tout le temps, puis jamais. Parce que ouais, on n'attache pas notre sucre avec de la broche, mais avec du barbelé bien serré.
Ouais, c'est ça.
Je veux juste saluer Magali encore une fois qui dit qu'elle a eu le même ressenti que toi, José. Moi, ben, vous le savez, là, j'en ai déjà parlé quand on a parlé de Adieu à Berlin. Moi, mon intention en plaçant ces livres-là cet été, c'est parce que j'avais, moi, c'est un besoin personnel, mais aussi une volonté de faire lire des livres sur cet événement-là pour éviter qu'on répète l'histoire. Mais je voulais, moi, m'intéresser à ces livres-là en premier. Puis, c'est ça, j'ai effectivement, ironiquement, eh bien, je suis allé à Québec en fin de semaine dernière, puis ironiquement, j'ai lu ça dans le train, puis j'étais comme, ben, je suis dans un train, puis je me fais servir des beaux plats, puis, tu sais, je suis dans un siège confortable qui s'incline, puis... Puis, c'est ça, j'étais comme, je devrais être tellement... avoir tellement plus de gratitude pour ce que j'ai. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup vécu dans la peur dans les derniers mois, mais une amie qu'on a en commun et qui est sous le ciel, connue sous le nom de Sous le ciel, m'a dit « Oui, mais c'est la peur que tu vis en ce moment, elle est inutile dans le sens qu'on ne sait pas c'est quoi l'avenir. » Donc, elle est beaucoup dans le vivre, dans le moment présent, puis tout ça. Puis bon, bref, tout ça pour dire que c'est venu chercher des cordes que je pensais pas nécessairement. En tout cas, j'ai pensé à beaucoup de choses. J'ai trouvé ça vraiment singulier, le départ. Tu sais, on est, comme je l'ai dit, se font enlever en 1944. Puis, je veux dire, ben, si on connaît un peu l'histoire, là, on sait que 1944, c'est vers la fin, là, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, c'est vraiment choquant parce qu'on le sait où est-ce qu'on s'en va, on sait pourquoi on lit ce livre-là. Mais quand même, au début, il est avec sa famille. Puis, il y a comme l'espoir que ça y arrivera pas, tu sais, jusqu'à la fin. Il y a comme l'espoir que, ah, ils sont venus chercher les autres, mais là, sûrement que Dieu ou les autres pays, les soldats d'ailleurs vont venir avant que ça nous arrive à nous. Puis l'espèce de confiance qu'il y a vraiment jusqu'à la dernière minute, c'est ça qui m'a vraiment troublé. D'autant plus que ben, c'est ça comme on le sait où ça s'en va. Donc on le sait que cet espoir-là est vain. Puis oui, il y a beaucoup la violence, il y a beaucoup de on va discuter, quand j'aurai terminé ce petit bloc, on va discuter de la véracité de ce livre-là ou non et de l'importance de la véracité de ce livre-là ou non. Moi, j'en avais aucune idée. Moi, j'apprends ça ce matin avec vous. Mais il y a un truc, puis je me sens un peu mal de le dire, mais pour moi, la lecture, c'est quelque chose d'aussi très personnel. Puis je veux absolument pas comparer ma vie à celle du narrateur de ce livre-là. On n'a pas vécu du tout la... Tu sais, je peux pas comparer mes petits malheurs à l'horreur qu'a été Auschwitz. Je fais pas ça du tout. Juste que ce soit clair. Mais j'ai aussi écrit dans ma vie sur un événement ou une partie de ma vie qui a amené beaucoup de trauma. Puis ce que j'ai lu dans cette lecture-là, puis c'est pour ça que ça me surprend autant là, ce que vous dites sur la véracité ou non de ce livre-là, c'est que dans son écriture, je reconnaissais le besoin d'écrire sur quelque chose qui est souffrant, mais aussi le besoin de le faire rapidement puis de passer à autre chose. Tu sais, il y a cette espèce d'urgence-là, il faut que j'en parle, mais je ne suis pas capable de passer... Tu sais, il y a des descriptifs, c'est pas un récit tellement descriptif, là. Il passe pas des phrases et des paragraphes à décrire le train, décrire les conditions. Non, on a vécu ça, puis là, je passe à autre chose, puis là, on est en train de vivre ça, puis c'est des souvenirs beaucoup. Puis ça, j'ai reconnu ça en moi. Donc, moi, j'ai envie de dire que cette personne, Elie Wiesel, qu'il a vécu ce qu'il a écrit ou pas, il comprend le trauma, là.
Mm-hmm.
Il comprend le trauma vraiment de façon très intime pour écrire ce livre-là. Donc, c'est ça. J'espère que je n'étais pas trop maladroit en expliquant ça, mais c'est vraiment venu me chercher sur ce niveau-là. Je comprenais pas nécessairement la victime. Je comprenais pas nécessairement
son contexte.
Son contexte, mais je comprenais l'écrivain là, derrière qui veut sortir son trauma.
Tu comprenais l'écriture cathartique?
Ouais.
C'est celle qui guérit.
Ouais. Ouais. Ben, guérit.
Ben, qui guérit. Qui permet de passer à d'autres choses, peut-être?
Ouais. C'est parce que, ouais, la guérison.
C'est gros guérir.
C'est un grand mot, puis il y a beaucoup d'étapes, je dirais. Mm-hmm. C'est peut-être une façon, une facette, une étape de la guérison, mais tu sais, ça prend beaucoup plus que ça. Ça prend de la thérapie. Il faut qu'on aille en thérapie.
Attention, une petite rémission.
De rémission en rémission.
Moi, c'est pour ça que je pense que qu'il l'a écrit ou non, puis tu sais, j'aimerais ça entendre aussi après le sentiment que tu as eu à ta relecture. Là. Il l'a quand même vécu, parce qu'il est quand même né pendant cette période-là. Il était sur ce territoire-là. Mm-hmm. Il y a forcément de la famille à lui qui a vécu ça. Fait que pour moi, ça me dérange pas. Honnêtement, tu sais, sur le coup, quand j'ai eu l'information puis j'ai creusé là-dessus, je me suis fait « Oh my God, quelle imposture! » Puis rapidement, je me suis dit « Pis! » Juste « Pis! » Ce qu'il a écrit, c'est peut-être pas lui en tant qu'homme, mais c'est probablement son voisin, son ami, son cousin. C'est quelqu'un, il dépeint un humain.
C'est l'histoire de milliers de personnes, dans le fond. Là,
de 6 millions de personnes, hommes, femmes, enfants. Qui dépeint ces personnes-là qui n'ont pas de voix, parce qu'ils n'ont pas de voix parce qu'ils sont morts ou ils n'ont pas de voix parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de le faire. Fait que j'ai l'impression que son témoignage, ça l'a fait, je trouve, un peu maladroit. C'est il s'est approprié du fame qu'il n'aurait pas dû. Moi, c'est ce qu'on peut lui reprocher. C'est d'avoir pris la gloire parce que est-ce qu'il a pensé qu'en se dissociant du propos, ça serait moins crédible? Est-ce que c'est pour ça qu'il a décidé de garder son nom? On va lui donner le bénéfice du doute. Peut-être qu'il s'est dit, j'ai plus d'impact en signant puis en donnant l'impression que c'est mon parcours, que c'est un témoignage, que c'est une pure fiction, c'est un mauvais terme. Mais vous comprenez que ça devient une fiction si c'est pas lui qui l'a vécu, c'est même pas une autre fiction. Est-ce que c'est ce qu'il s'est dit? Peut-être, mais moi qui reçois le texte, puis tout ça, est-ce que ça change ma vision? C'était pas Walt Disney World, là. Que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre, ou que ce soit une somme de 112 000 personnes, ça reste que ce récit-là est réel et véridique. C'est juste la face qui change.
Ouais. Moi, ça change pas mon appréciation du roman, mais ça change un petit peu ma perception de l'écrivain.
Ouais, c'est ça.
C'est comme écrire sur les pensionnats autochtones parce que t'étais vivant à cette époque-là, mais que t'es pas faite. Tu sais, c'est comme, ce que j'ai un peu peur, c'est que je peux comprendre que peut-être que ces personnes-là avaient pas la capacité émotionnelle pour, tu sais, ou avaient pas le désir pour écrire là-dessus, mais est-ce que c'est ta place à toi de le faire, tu sais? C'est comme, puis je pose la question sans y répondre, tu sais, dans le sens que je sais pas, je suis ni une victime, ni lui. Fait que, tu sais, j'ai aucune idée du contexte, puis est-ce que ça a choqué des gens qui l'ont vécu? Tu sais, je pense que c'est ça le plus important, dans le fond. Mm-hmm. Est-ce que les personnes qui ont vécu les camps de concentration, qui en sont sorties, forcément, est-ce que ça les choque si lui, il l'a pas fait? Ouais. Si eux sont comme cool avec ça, je peux pas... Je peux pas être dans une autre ligne de pensée que la leur, parce que c'est eux les plus légitimes à être fâchés.
C'est ça. Si le récit est légitime, puis que ça rejoint ces gens-là, rendu là, nous, le lecteur, on n'a pas vraiment un mot à dire par rapport à ça. Ça discrédite juste l'auteur, dans le fond, dans son humilité personnelle, peut-être, je sais pas. Mais là, reste que tout ce qui est là-dedans, de près ou de loin, c'est arrivé, puis on l'effacera pas. La seule affaire qu'il faut, c'est le relire pour pas, comme Sylvain, tu dis, pour faire les mêmes erreurs. Il faut jamais oublier le passé, parce que c'est la façon la plus facile de le répéter dans le futur. T'sais.
Ouais. Moi...
Je vais te lever, excuse.
Vas-y.
J'avais juste un petit passage qui... Dé... qui décrit 100% ce que toi, Sylvain, tu disais, ce qui était comme curieux dans le début, là, puis qui ça résume bien, c'est page 25, quatre phrases. Les Allemands étaient déjà dans la ville, les fascistes étaient déjà au pouvoir, le verdict était déjà prononcé et les Juifs de Siget souriaient encore.
Ouais.
Puis c'est un peu ça, tu sais. L'espèce d'innocence d'y croire pareil qu'on est un peu à l'abri, tu sais, on n'est pas dans la guerre parce que le front y est loin.
Ouais.
Mais ils savent pas tout ce qui s'en vient, tu sais, c'est ça, le plan, c'est pas le leur.
Ouais, il y avait beaucoup de moments comme ça. Moi, j'ai la page 73, là, que tu sais, ils sont déjà dans le train, puis il y a quelqu'un qui est comme, voyons, crime, comme vous en allez droit, tu sais, droit dans, vous voyez pas la cheminée, vous voyez pas le feu, comme.
C'est la là dame vous en allez, qui crie au feu, là.
Ouais. Ouais.
Elle hallucine le feu d'avance. On dirait qu'elle a comme une espèce de vision ou quelque chose. Tu sais, elle le ressent déjà, comme si elle avait eu de l'information que le reste des gens n'ont pas, mais elle n'est pas capable de le verbaliser autrement qu'en détresse. Il y a un autre personnage au début là, qui s'appelle Moshé le Bedeau, là, lui qui par deux fois, il essaie de les faire fuir, puis partez de chez vous et tout ça, puis il passe pour un complet fou dans la ville. Là. Mmh. Tout le monde rejette du revers de la main tout ce qu'il apporte, mais en même temps, si tu as un, tu sais, mettons l'expression l'idiot du village, puis que tous les gens sont comme, ouais, ben pas vraiment, tu sais, on va continuer d'aller à l'église, on va faire notre prière avant de manger, ça va bien aller, on a la foi, tout ça, tu sais, on reste soudés. Mais c'est ça, dans cette situation-là, est-ce qu'on aurait fait différemment? Tu sais?
Ouais. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait aucune information.
C'est ça.
Ouais.
Tu sais, nous autres, on regarde ça avec évidemment tout le recul puis toute la connaissance du passé. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'informations et regardons ce qui se passe aux États-Unis, tu sais. Puis, on a toutes les informations qu'on peut. Et malheureusement, on a les mauvaises autant que les bonnes. Mais, tu sais, eux autres, on n'avait pas pantoute. Puis, quand ils voyaient les cheminées, à part l'odeur, puis d'avoir été des informés ou des initiés, il n'y avait aucune idée de ce qui se passait là. Puis c'était pas l'information. Tu sais, ils étaient déjà occupés, j'imagine, la Hongrie à ce moment-là. Fait que c'était pas l'information libre et totale. Puis quand tu avais la chance d'avoir une petite radio pour te brancher sur BBC, c'était tout en code, parce que tu avais la capacité de comprendre, puis il n'y avait pas toutes les informations non plus. Moi, je pense pas que les gens savaient pas, tu sais, quand que les gens qui étaient autour du camp des camps de concentration, ils devaient savoir. Là. Moi, j'ai du mal à croire que ces gens-là ont rien vu, rien entendu, rien senti. Ça, pour moi, je le crois pas. Mais quand tu te fais, tu sais, mettre en ghetto en Hongrie, puis que t'as aucune information, est-ce que tu... Je sais pas. C'était
dur à croire, non? C'est comme...
Ouais.
T'sais, même si tu as cette information-là, aujourd'hui, si on entendait des choses comme ça, on ne croirait pas ça. Il y a un camp. Mais t'sais, proche d'ici, genre au Canada, il y a un camp de concentration. Genre, on serait comme à théorie de la conspiration, là, comme tu dérailles, là, ça ne va pas dans le clair.
Mais tu sais, s'ils prennent toutes les roues, mettent les roues dans un ghetto, t'sais, parlement que je me dirais, ben non.
Non, t'sais, c'est ça.
Puis ces gens-là, on dirait que se sont fait mettre en ghetto. Puis, je reviens à ma fille qui a visité ce camp-là, puis le guide disait qu'il était relativement peu nombreux, les gardes SS, comparativement à la masse d'humains qu'il y avait. C'est qu'ils auraient pu se rebeller.
Ouais.
Parce que c'était en pourcentage, c'était très, très, très infime, la quantité de gardes. Lui, il posait cette question-là, évidemment, il n'y a pas de réponse. Mais tu sais, je trouve que ça amène une réflexion aussi. Comment ça se fait qu'à un moment donné, en tant qu'humain, tu finis par accepter ça. Je pense que ça doit être l'espoir qui nous aide puis qui nous nuit en même temps. On a l'espoir que ça aille mieux. Ah, je sais, écoute, pour moi, c'est tellement des angles morts que je comprends pas. C'est pour ça que j'en lis autant des textes de même parce que je comprends pas.
Dans leur cas, c'était beaucoup la foi, comme je disais tantôt, dans mon avis, tu sais, c'est ça qui les tient agrippés ensemble. Tu sais, à un moment donné, la première fois que Elie Tser, il dit, j'avais jamais entendu, mettons, la prière de la mort sur eux-mêmes. C'est comme ils font la prière pour les morts, mais pour eux qui sont vivants, puis c'est chargé de pouvoir comme phrase, dans le sens où c'est une première pour eux, puis ce que ça représente pour des religieux pratiquants d'utiliser ça. Après, je veux dire, ils sont comme tous sous sentence, sans nécessairement savoir quand, mais ils commencent la psyché commence à tourner vers... On comprend tranquillement, sans assumer ce qui s'en vient, mais on le voit relativement plus vite qu'il y a quelques jours ou semaines. Là,
moi, tu vois, moi, dans ma lecture, j'ai eu l'impression que rapidement, il est devenu très anti-religieux, justement, tu sais. Mm-hmm. J'ai trouvé que la foi, elle t'a pris toute une méchante débarque et a raison, là. Quand il dit pourquoi tu m'imposes ça, pourquoi tu imposes ça au peuple, tu sais. Puis, à un moment donné, quand il était au sommet de l'horreur, j'avais l'impression qu'il s'y raccrochait, mais s'y raccrochait pas tant, en tout cas, ça c'est mon ressenti, mais pas tellement pour la religion, mais comme pour se raccrocher aux autres personnes qui l'entouraient, tu sais, pour garder cette humanité avec les autres. Mm. Parce que j'ai vraiment eu le feeling que rapidement dans le livre, la religion il était même, en tout cas, c'est ce que j'ai fâché et à raison.
Mais dans son cas, j'ai l'impression qu'il était fâché contre, mettons, le Dieu, la force, mais comme le ce que tout ça véhicule comme valeur, il les a jamais laissé tomber.
Ouais.
Fait que, mais mettons, oui, la personne qui. Oui, c'est ça, mais tu sais, de se garder accroché à son père, de toujours le suivre, de, mettons, être soudé à quelque chose ensemble, mais la figure suprême du Dieu, oui, il l'a laissé tomber, mais tout ce qu'il a inculqué comme valeur, il les a gardés, tu sais.
Oui, il a gardé dans le fond, mais c'était clair aussi que tout au long du livre, ce qu'il voulait préserver, c'est son humanité.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Puis à mon avis, c'est pas Dieu qui lui a permis de survivre, mais c'est vraiment... Tu sais, comme tu dis, l'humanité, les valeurs qu'il a gardées, mais tu sais, ces valeurs-là viennent de la divinité, mais viennent surtout de son environnement familial, son environnement communautaire. C'est là que cet homme-là s'est bâti. Tu sais, même si tu le sens au début du livre, que c'est quelqu'un qui s'enligne davantage pour devenir un rabbin ou en tout cas quelqu'un de très, très, très mystique.
Mmh.
Mais moi, c'est ça qui m'a étonné dans le livre, à quel point qu'il a, tu sais, occulté rapidement le facteur Dieu.
Ouais.
Et on peut-tu essayer de comprendre?
Mm-hmm. Ouais.
Un des éléments qui était beaucoup soulevé par rapport à la controverse qu'on parlait tantôt, c'était le fait que tout tourne en sa faveur et la faveur de son père tout au long du récit. Mm-hmm. Puis, ce qui pourrait en faire un brin de fiction, c'est ça, c'est que, mettons, le cliffhanger du père qui décède à la fin quand il arrive, puis après ça, il te reste 3-4 pages, puis t'as la dernière phrase finale qui est comme l'espèce de... ça glace le sang comme si tu... C'était pire que pire, mais reste que comment c'était amené, ça pourrait être bâti comme un roman plus que
un
récit. T'sais.
C'est pas l'histoire de tous ceux qui ont survécu, justement. C'est pour des raisons complètement obscures et miraculeuses que eux... T'sais, ils s'en sont sortis, mais pas les autres. T'sais. Un peu inexplicable de comme j'étais.
Comment ça se fait que t'es là encore? T'sais.
Ouais. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça sonne un peu fantaisiste parce que toutes les autres sont plus là. Puis qu'il y en a eu vraiment beaucoup qui sont morts. T'sais. Fait que comme, c'est sûr, parce que je pensais un petit peu à l'histoire de Simone Veil aussi. Là, c'était un peu comme ça. Là, quand même. Je sais pas pourquoi moi j'ai été choisie pour faire ça ou comme j'ai eu ce privilège-là. Puis était comme pourquoi pas les autres, tu sais, parce que cette personne-là elle m'aimait la face, puis que j'avais l'air cute ou un peu de sympathie. Comme c'est inexplicable dans l'horreur que des choses comme ça arrivent, tu sais.
Mais tu sais, ils sont quand même en 44, la guerre a commencé en 39, ils étaient quand même dans le dernier stretch, mettons.
Ouais.
Tu sais, ils ont eu plus de chances de survivre.
Aussi.
Oui, il y a eu une accélération de la mort à ce moment-là qui était absolument épouvantable et abominable, mais ils étaient quand même vers la fin, ils ont eu plus de chances, mettons. Moi, le bout que j'ai trouvé le plus fantaisiste, c'est le bout où ils retrouvent la femme qui lui a souri, puis se retrouve sur un café, puis se reconnaît.
Ah, au café, ouais.
Non. Premièrement, tu t'es pas vu dans les Glory Days, là. Puis je pense pas que quand tu te revois plusieurs années plus tard, juste la force de l'œil, là. Ce bout-là, je l'ai trouvé. Je me suis dit, est-ce que c'est pas vrai? Tu le sais très bien, mais tu veux, genre, me donner un petit rayon de soleil dans ma lecture? J'avoue que j'ai pris un peu de recul quand j'ai vu ça. J'ai fait, ouf.
Mm. Ouais.
Ouais. Ça, je peux pas l'expliquer. J'ai pas vu les documents dont vous me parliez avant qu'on enregistre, donc les indices qui pointent vers la direction que ce serait effectivement de la fiction. Sauf que je veux quand même... Je les ai pas vus, je les sais pas, mais j'aimerais quand même souligner que n'importe quel survivant de ça n'importe quel survivant de n'importe quel trauma, on peut pas exiger une mémoire parfaite de tous les événements qu'ils ont vécu. T'sais. Donc, qu'il y ait des choses là-dedans qui ne se peuvent pas ou qui se sont pas reflétées avec la réalité, pour moi, ça discrédite pas entièrement l'auteur. Puis je dis pas que c'est la réalité non plus, là. Je ne le sais pas. Je le sais pas, mais tu sais, je pense qu'on a tendance à oublier qu'en situation de trauma, on peut oublier ou percevoir les choses de façon différente. Puis les gens qui racontent aussi ces faits-là, je veux dire, eux aussi, ils n'étaient pas là à tous les jours, dans toutes les situations, à voir tous les angles. Puis l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que ben, ça me dérange de penser que c'est un mensonge. Ah ouais. Ça me dérange, moi, parce que, oui, tu sais, on va dire que le livre a de l'impact, sauf que j'aime vraiment pas l'idée que quelqu'un se soit... Tu sais, parce que cet homme-là, il a écrit ce livre-là, faisant semblant que c'était lui. Mm-hmm. Puis après ça, je veux dire, il a pas juste publié son livre puis disparu, là. Il mm-hmm. a fait des entrevues. Il a mm-hmm. toute une carrière d'écrivain qui suit après ça. D'ailleurs, je vais vous parler après des deux autres tomes de cette trilogie-là. Mm-hmm. Il a toute une vie qui a changé à partir de ce moment-là, basé sur le fait que c'était son récit à lui, tu sais. Fait que ouais. Moi, ça me dérange un peu. cet aspect-là me dérange.
Ben, je pense que c'est dérangeant, Sylvain, parce que ça fait un bon moment qu'on discute, puis un gros moment de cette discussion-là, c'est sur cette imposture probable. Ouais. Fait que ça nous dérange pas mal tous, tu sais.
Ouais.
Là, je rejoins, que ça soit vrai ou non, j'allais justement en parler, c'est sûr que la mémoire est altérée. Tu peux pas être en état de souffrance comme ça, puis avoir la mémoire qui reste complètement lucide et sharp, c'est sûr que... Puis même, c'est presque étonnant que ça soit si précis. Parce que sous-alimenté, battu, privé de tout ce qu'un humain a besoin pour vivre et survivre...
Mais il y en a des grands bouts qui manquent aussi, là. Il y en a des grands bouts qui manquent dans le livre. D'ailleurs, à un moment donné, dès que son père meurt, puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Il a vu quelqu'un d'autre abandonner son père, puis ça l'a comme motivé de se dire non, je vais pas être cette personne-là qui abandonne. J'ai trouvé ça beau, un peu romancé, mais j'ai trouvé ça beau, tu sais, Puis à la fin, quand son père meurt, le chapitre d'après commence, puis il dit. Ben, je sais pas comment c'est formulé en français, là, mais désolé, mais là, il n'y a plus grand-chose à raconter maintenant que mon père est mort, puis il n'y avait plus vraiment d'intérêt à rester dans son dans cette histoire-là, dans cette espèce de situation-là. L'auteur n'avait pas intérêt à rester là, tu sais.
Oui. Mm-hmm.
Mais il s'en veut, parce qu'il a quand même un peu abandonné son père.
Oui.
Quand il n'a rien dit, rien fait, juste à la fin, quand il était malade.
Là. Exactement.
Dans le lit, tout ça.
Ouais.
Je sais pas. Et la personne qui l'a abandonné, ça, il l'aide à faire son propre cheminement parce qu'il se dit, il faut que je me sauve moi-même. T'sais. Fait il y a comme une espèce de moment très, très, très contradictoire et épouvantable. Pour survivre, il n'a pas le choix d'abandonner son père qui est, de toute façon, qui est mourant, on va se le dire.
L'autre, c'est bien pire, là. Je veux dire, il bat pour un morceau de pain pour se faire battre après, puis je veux dire, tu sais, quel genre, là.
Mais est-ce que ça légitime aussi le fait que lui, c'est bien moins grave, fait qu'il a le droit de le faire?
Ouais.
C'est ce que l'autre a fait pour le pain, je pense qu'on est au sommet de l'abomination.
Ouais.
Est-ce que lui se dit, ben moi, dans le fond, ce que je fais, c'est juste pour ma survie, tu sais?
Il y avait beaucoup de réflexions, je trouve, par rapport à l'humanité, puis au pouvoir, puis à ce retour à l'animal, tu sais, comme justement les affaires de pain là, à la fin, là, tu sais, que des gens, ils leur garochaient du pain, puis que comme tout le monde s'entretue pour ça, mais comme il y a déjà tous les gens autour qui veulent vous tuer, puis en plus, vous autres, vous entretuez, tu sais, la femme dans le pain, avec le pain, avec le feu du début, tu sais. Oh oui, et ben, il y a roue de coups parce qu'ils sont tannés. Tu sais, fait que comme, je trouve que la balance de comme, on tombe rapidement on perd notre humanité, tu sais. dans des contextes quand même assez particuliers, mais je trouve qu'il y avait vraiment lui qui essaie de la garder le plus possible, qui essaie d'être bon encore, puis de faire les meilleurs choix, puis par rapport à son père, puis les autres qui ont sombré là-dedans. Puis comment le pouvoir aussi, ça amène ça. Comme rapidement, on dit, t'es un chef. Mm-hmm. Toi, tu décides si les gens, ils vivent ou ils meurent. Mm-hmm. Tu sais, rapidement, c'est comme les gens, ils perdent leur humanité de ça. C'est comme, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, t'es meilleur que les autres juste parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que t'es un chef, là.
Mm-hmm.
Ouais. Mm-hmm. Puis c'est pour ça aussi, tu parlais, il y avait tellement peu de garde. Ben, il y a beaucoup de respect pour le pouvoir dans notre humanité. Fait que, tu sais, lui, c'est lui qui contrôle. Fait que même si en masse, on est plus que lui, on va s'écraser puis on va respecter, même s'il est là pour choisir qui veut tuer. T'sais. C'est vraiment particulier à réfléchir, tous ces concepts-là qui font en sorte que des génocides comme ça arrivent. Nous, on a lu au début du mois d'août sur le génocide des Tutsis, là, salut le bonheur!
Ouais. Un bon doublé, là.
C'est encore une affaire comme ça, là. Ouais. C'est comme les Blancs, ils disent, ah, vous autres, vous êtes comme ça, fait que vous êtes des Tutsis, vous autres, vous êtes comme ça, vous êtes des Hutus. Puis c'est là que la guerre est partie, tu sais.
Mm-hmm.
Merci, les Blancs. Absolument.
Il faut dire que ces gardes-là, ils étaient armés, puis c'était facile de tuer quelqu'un, là, aussi. Là.
Ah non, c'est clair.
C'était pas... Ils pouvaient tuer n'importe qui pour n'importe quoi, fait que ça donne pas le goût d'aller se mettre devant. Là. Il n'y a pas beaucoup de justice, entre guillemets. Là.
Mm-hmm. Non, c'est ça.
Puis après tout le cheminement, t'as le personnage principal qui dit on pourrait pas juste tout se faire fusiller dans le train rendu là. À passe de se faire tirer des bouts de pain, puis que les gens regardent un peu cette espèce de zoo, je ne sais pas trop. Là. Comme un autre twist un peu à l'eau de rose, c'est quand que il va faire la morale à Adam qui pitche de la monnaie dans... c'est par rapport à... C'est une tribu ou quelque chose, je me souviens plus le détail, là, mais puis eux autres, ils vont chercher la monnaie, puis elle dit c'est... Je me souviens plus comment elle dit ça, mais c'est contre Anyway, je trouve... j'étais comme... C'est stretché peut-être bien pour... ajouter au récit aussi, puis ajouter à l'espèce de morale un peu... comme si ça nous... On n'était pas capable de faire le chemin par nous-mêmes, de comprendre la leçon déjà du pain, puis dans le train, mais il devait, lui, dans son personnage, écrire qu'il a dit à la dame de ne pas faire ça, parce que ça, j'étais comme, c'est plus gros que le bras, j'ai pas besoin que tu m'écrives ça pour me faire réfléchir sur l'événement qui est arrivé avant, là, tu sais. J'étais comme si je me sentais pris par la main, mais j'en avais pas de besoin. Je veux dire, j'ai tout compris un peu la dimension de ce que tu avais démontré avant.
Ouais.
Tu sais, au début, dans le train, puis il y a une mise en garde de l'auteur au début du livre, mais tu sais, les jeunes garçons qui agressaient, entre guillemets, les jeunes filles dans le train, ça, c'est épouvantable. On est avant le day one, tu sais, puis il y a déjà une perte de dignité.
Free for all dans le train.
Mm-hmm. Ça, c'est pour toi, j'ai trouvé ça épouvantable. Puis, tu sais, il revient là-dessus, dans la version, parce qu'il y a eu la version en yiddish, il y a eu la version en anglais, la version en français, puis à toutes les fois, c'est comme un peu, il a comme un peu modifié son récit, tu sais, puis je me dis, mon Dieu, c'est épouvantable, ça. Ça augure bien pour la suite, là, comment vous allez, Puis, en tant que femme, moi, de lire un enfant dans le même, là, j'ai, tu sais, tout m'a agressé dans ce livre-là, là, comme vous, mais ce bout-là, j'avoue, j'ai trouvé ça épouvantable, là.
Moi, un détail que j'ai retenu, puis c'est quand il remercie Dieu d'avoir inventé la boue pour garder ses chaussures neuves parce qu'il est deux pieds dans la boîte et il ne pourra pas voler. J'étais comme, comment est-ce que ce détail-là peut être si anodin, mais si important quand même? Parce que c'est, en tout cas, j'étais comme, ça dégringole. Là. À chaque page, tu avais comme un élément nouveau qui faisait pas de bon sens, là, dans le sens où j'étais... La pause que j'ai prise, moi, personnellement, j'en ai eu besoin là, de laisser, d'aller lire autre chose, là, mettons.
Ouais, c'est des détails comme ça qui sont durs à inventer, je trouve. Là. C'est que tu dis, faut que tu y penses fort si tu l'as pas vécu, là, à quel point les souliers sont importants, puis que...
La ça couronne d'or.
Mais ça peut être quelque chose que j'ai entendu, tu sais, mais...
C'est ça.
Mais c'est du détail, tu sais.
C'est ça. L'homme à quatre pattes qui va chercher de la soupe, puis qui fait tirer, puis qui...
Ah, mais oui.
Tu sais, je pense pas que ça s'invente, des affaires de même, non plus.
Puis Puis le bonheur d'entendre les bombes, même si on sait qu'on peut mourir sous la bombe.
Ouais. Parce qu'ils disent la mort fait plus de sens à nos yeux maintenant. T'sais, on est tous. À un moment donné, ils se comparent, ils disent nous ne sommes plus des humains, nous sommes des estomacs vides et affamés.
Ouais.
Pas manger 10 jours puis 10 nuits de temps dans un wagon de train entassé avec des gens, là, t'en rendre 100 parce qu'ils sont tous frêles puis desséchés. Le mot desséché pour décrire les gens autour de lui revient énormément souvent. Ouais.
Les cadavres.
Tu t'imagines un chêne mort vivant, là. Ouais.
Est-ce que vous avez fait est-ce que vous faites poser la question pendant votre lecture, genre, et si moi j'étais là?
Oui.
Constamment, mais moi, ma réponse, c'est que je serais mort, là. Rapidement.
Je pars en courant puis je me fais tirer dans le dos, là. Après, on passe à une autre vie. Tu sais, je pense, mettons, avoir la force de traverser tout ça pour sortir tout seul avec toute ta famille. Ben non. Moi, je suis le premier qui s'en va dans l'autre sens, puis je me fais gonner, puis ça finit là. Tu sais. Ça fait bien moins mal que tout ce qu'il a vécu. Là.
Absolument.
Mmh. Même la dernière phrase, là, quand il dit qu'il se regarde dans le miroir, puis il dit, mettons, je ferme les yeux, puis je vois tout le temps ça. Tu sais, je veux dire, as-tu nécessairement une deuxième vie après ou tu t'en vas, mettons, faire des entrevues à la télé, puis tu reviens chez vous, puis je sais pas, là, tu dors pas. Tu sais. Il dit que ses yeux le fuient à un moment donné parce qu'il est plus capable de dormir. Tu sais. Mais ça, c'est pas une vie pour moi. Là, tu sais.
Non. Puis en ce moment même, il y a des gens qui sont affamés depuis combien de semaines à Gaza? Tu sais?
L'histoire se répète.
Oui, puis ce qui est incroyable, c'est que ça se répète quand même. C'est des Israéliens, tu sais, c'est quand même des Juifs. Là.
J'ai un petit commentaire de Sarah qui dit c'est un adolescent aussi, je trouve que ça joue. C'est un commentaire, je m'excuse, qui datait de d'un peu plus tôt dans la conversation, mais je voulais pas vous interrompre. Je pense qu'on a fait le tour de la nuit. Avez-vous quelque chose de précis à ajouter sur ce livre-là?
La nuit était longue.
La nuit était longue et pourtant c'est un tout petit livre. Puis une chance, c'est ça que je me disais, une chance que c'est un petit livre parce que, tu sais, t'imagines-tu un roman de 500 pages, là, comme ça? Oh.
Je suis pas sûr, man. Je suis pas sûr.
Non, on l'aurait traversé.
Ouais, c'est sûr.
Ouais.
Donc.
Je prenais des notes des fois, puis j'ai arrêté à un moment donné, puis j'étais comme, je peux pas réécrire ça. Me voir écrire ça sur du papier, je vais te garde, je vais y aller de mémoire, mais je remets pas ça sur papier chez nous. C'est atroce.
Mais faut le lire.
Ouais. Faut lire. Je pense que c'est effectivement une lecture nécessaire. Puis en fait, je sais pas, là, c'est moi qui a... Je commence à remettre en doute le fait que j'ai de la culture. Je pense que j'ai pas autant de culture que je pense que j'en ai, mais j'en avais jamais entendu parler de ce livre-là. J'en ai entendu parler cette année. Puis je suis comme, comment ça se fait? Tu sais, on parle beaucoup du journal d'Anne Frank, on parle beaucoup de si c'est un homme. Mais celui-là, j'en avais jamais entendu parler. Puis c'est ça, je suis vraiment content d'avoir... Content de l'avoir lu. Je suis surtout content de pouvoir prendre ma minuscule part d'Internet et en lui donner une minuscule visibilité de plus. Donc, bref, merci beaucoup de l'avoir lu. Je sais que c'était une épreuve, mais je vous remercie de l'avoir lu et d'être venu en parler avec moi. Ceci étant dit, Jeff, qu'est-ce que tu as à nous recommander? Changement de ton.
Je vais y aller plus dans la joie, mais j'hésitais en plus, là, il y a peut-être 7 minutes dans le show, si je voulais parler de... Je sais pas si vous avez vu le film, je vais juste le glisser, mais j'en parlerai pas parce que j'ai le goût de parler... c'est pas vraiment plus joyeux, dans le fond, ce que je vais en bien vous parler. Mais le film de Zone of Interest, en 2023, nominé aux Oscars pour Best Picture.
Ouais.
C'est ça raconte l'histoire d'un des chefs SS à Auschwitz, qui gérait le camp de concentration, puis sa famille vivait l'autre bord des barrières dans une petite maison avec les enfants, puis la femme qui allaitait son linge, puis tout, puis son mari s'en va brûler le monde de l'autre bord. Complètement atroce, mais ça vaut la peine quand même pour la réalité, la justesse de des événements, ça a l'air que c'est vraiment bien, bien relaté. Mais je veux vous parler d'autres choses que j'ai lues, que j'ai beaucoup aimé, puis c'était un cadeau de Sylvain. En plus. C'est Dinner for Vampires de Bethany Joy Lenz, qui est une actrice que j'adore, qui était sur un... Ben, c'est mon show préféré, One Tree Hill, si vous connaissez en français, c'est Les Frères Scott. Neuf saisons de 2003 à 2012. Et elle, Bethany Joy Lenz, c'est une fille de New York, puis bon, elle va déménager en Californie, à LA, pour... les auditions, puis éventuellement faire de la télé, puis faire du cinéma, quoi que ce soit. Elle voulait vivre le big dream, si on veut. Et, elle est une personne très religieuse. Elle va s'immiscer dans un groupe d'amis qui vont devenir un peu comme sa famille, puis elle va délaisser un peu sa famille biologique pour sa famille spirituelle. Groupe de gens au plus gros, c'est peut-être ils sont peut-être 25, si je ne me trompe pas, là, mais le core de gens, c'est une douzaine de personnes. Et ça se passe relativement très bien au début. Elle est vraiment là, impliquée là-dedans. Puis là, elle va se faire auditionner pour One Tree Hill. Elle va guetter un des premiers rôles. On le sait, c'est comme... Elle joue Hayley, elle va se marier avec Nathan. Ça dure les 9 saisons. puis moi, c'est un gros fan ici. Là. Mais bon... Puis à partir du moment où elle va get justement le contrat et tout, ça va se mettre à comme débouler assez rapidement. Où elle va se rendre compte que sa famille, c'est un culte et elle va se faire rincer de tous ses dollars, de tout le show qu'elle a fait pendant les 9 années. Fait que c'est sa vie, c'est elle qui relate les faits, puis elle montre aussi comment une des fans du show s'est introduite dans le culte pour aller la sortir de là.
Oh, wow!
Mais c'est ça, les événements. C'est... En fait, c'est comme pour tous les gens qui remettent en doute ce qu'un culte peut avoir comme pouvoir sur toi. Je prends exemple, mettons, j'en parlais avec ma mère. Ma mère, elle était fan des Frères Scott quand on était jeune. On l'écoutait avec nous, tu sais. Là, je parlais justement que ça, c'était arrivé que Bethany avait été dans un culte. Puis ma mère m'a répondu, mais je comprends pas les gens qui sont... Puis ce livre-là, c'est vraiment fait pour les gens qui se demandent « Je comprends pas comment ça que tu peux tomber dans un culte puis te faire endoctriner à ce point-là. » T'as tout le template de comment ça se passe avec ce livre-là. Puis c'est génial, c'est bien écrit, puis c'est très humain. Fait que je le recommande fortement. Merci Sylvain.
Ben là, je te l'avais offert, mais là...
Mais là, je peux te l'offrir. Ah, oui, il va s'en retourner chez vous. Mais oui, j'ai beaucoup aimé. Là, c'est un 325 pages, comme ça se lit tout seul. Mais c'est une belle histoire. Ben, non, c'est pas vrai. C'est une juste histoire.
Excellent. Merci beaucoup. Maps, qu'est-ce que tu as pour nous?
Hey, ben on change un petit peu de tonalité quand même, là. Mais on reste dans la nostalgie. Il y a un balado que j'écoute par-ci, par-là, dépendamment des invités, qui est « Ouvre ton jeu » avec Marc-Claude Barrette. Puis, il y avait un épisode avec un de mes chanteurs coup de cœur de la vie, hashtag Keten. Donc, Maxime Landry est un grand ami de Marc-Claude Barrette. Saviez-vous ça? Ils sont déjà partis en voyage tout ensemble. Maxime Landry qui a été le gagnant de 2009, donc ça, c'était quand même une des premières saisons. Puis son histoire, on l'a beaucoup entendu parler, que son père s'était suicidé lorsque Maxime avait 16 ans, puis il y a beaucoup de sa carrière qui a été jouée entre gros guillemets là, là-dessus. Puis j'ai découvert dans cette entrevue-là un gars très drôle, un gars qui a eu une vie, ma foi, complètement hors norme. Là. Il était dans un bar à 12 ans. Il chantait. Puis ses parents étaient là dans le bar aussi. Genre, c'était accepté, point d'interrogation. C'est comme les parents supportaient son désir de faire de la musique puis pensaient que la meilleure place pour faire ça à 12 ans, c'était dans les bars. Donc, c'était sa vie. Là, 4-5 soirs semaine à 12 ans à faire des shows, puis des mariages, puis des activités comme ça. Puis, lorsque son père s'est suicidé, lui, tu sais, il raconte qu'il était vraiment l'enfant qui était le plus proche de son père. Donc, il a comme voulu reprendre ce que son père faisait. Il était facteur, puis tout ça. Donc, il a lâché l'école à 16 ans. Puis, il a fait sa académie à 21 ans. Puis à 21 ans, il disait « j'ai fait les auditions », puis c'était comme « c'est ça » ou « je sais pas quoi faire d'autre de ma vie ». Là, c'était comme la dernière chance à 21 ans. Là. Mmh. Fait que, puis là, après ça, bon, la suite, on la connaît, il a gagné. Mais il a quand même été un grand précurseur parce que malgré tout, ben, Maxime Landry, aujourd'hui, c'est beaucoup plus publicisé, mais tu sais… À l'époque, des hommes homosexuels qui gagnent des shows, même aujourd'hui, tu sais, à toutes les fois, sont très stigmatisés. Puis, donc c'est ça. Il y a tout ça aussi, qu'il y a cette pression qui est un petit peu venue par, sur ses épaules. Puis le fait qu'on l'a tout de suite identifié comme avoir perdu, tu sais, le gars qui a perdu son père parce qu'il s'est suicidé, alors que c'est quelque chose qu'il avait demandé de ne pas parler à la production, puis de ne pas jouer sur cette corde sensible-là, mais ça n'a pas été respecté. Fait que, mais c'est vraiment intéressant quand même, j'ai découvert quelqu'un, une personnalité, tu sais, on connaît les chanteurs, mais pas nécessairement qui sont en tant qu'humains. Voilà pour Maxime Landry. Hashtag Merci. Country.
Yeah!
Yeah!
Et toi, José, qu'est-ce que tu as pour nous?
Oui, ben, je vais juste faire un peu du pouce sur le livre et le film Zone d'intérêt. Moi, j'ai vu le film, puis après, j'ai embarqué dans le livre et j'avoue, j'ai pas été capable de finir le livre. J'ai trouvé ça tellement violent. La distance qui est mise entre la réalité et la légèreté des gens qui étaient au contrôle du. J'ai trouvé ça odieux. En fait, j'ai trouvé ça plus dur à lire que la nuit.
Ah ouais.
Ouais, j'imagine.
Puis, si jamais vous lisez ce livre, j'aimerais ça qu'on passe un petit 5 minutes pour en jaser ensemble, pour avoir votre ressenti. Mais moi, cette distance-là, le fait que tu peux faire subir à d'autres tellement d'atrocités en étant toi-même une espèce d'oiseau volage, j'ai trouvé ça odieux, scandaleux, j'ai pas de mots pour le décrire, tellement que j'étais plus capable de lire le livre, je l'ai arrêté.
Okay.
Mais ça, c'est une petite parenthèse. Après avoir fini la... Oui, excuse-moi, c'est
le même. Non, si jamais on décide de le lire, on ira te jaser, mais je t'annonce officiellement que ce ne sera pas au menu du club.
Ah oui!
je vous forcerai pas à lire ça.
Non.
Et moi, ça m'intéresse, par contre.
Ouais, oui, bien, c'est ça. C'était plus hors caméra, là, mais en fait, puis toutes les gens qui nous écoutent en ce moment, si ça vous tente, ben vous m'enverrez un message. On se fera une collectivité, la zone d'intérêt. Enfin, après avoir fini ça, j'aime beaucoup Romain Portolan. Je trouve que c'est un auteur drôle qui me fait toujours réfléchir, mais qui me fait rire en même temps. Puis j'ai lu, une amie au club de lecture m'a conseillé un été sans Facebook. Je l'ai commencé, puis c'était tellement dur ce qu'on a lu, puis c'était tellement vrai que tomber dans cet univers-là un peu rose bonbon, ah, ça me tentait pas, là. On dirait que j'étais fâchée, comme genre, non, je peux pas croire, je lis ça. Fait que je l'ai remis de côté temporairement. Puis moi, il y a une autrice française que j'aime beaucoup qui s'appelle Valérie Perrin. J'ai commencé à lire Tata. Et oh mon Dieu, je suis embarquée dans la quête de Agnès. C'est une histoire à la Valérie Perrin, 85 millions de personnages qui connectent entre eux des avant, des après. C'est une tante, en fait. Tata, c'est pour sa tante. Elle meurt. Elle remeurt parce qu'elle est morte 3 ans après, elle meurt encore. Et elle laisse à sa nièce, qu'elle aime beaucoup, une série de cassettes. Puis c'était une dame qui était très taiseuse, qui disait peu de choses, elle se dévoilait très peu. Mais dans ses cassettes, elle se dévoile beaucoup. Fait que c'est un peu comme une espèce d'enquête, mais qui n'est pas une enquête policière, qui est vraiment une enquête humaine. J'ai un grand bonheur à lire ça. Puis là, je fais juste une petite parenthèse. Moi, je croyais que Lydie, mon amie et partenaire, l'avait lu, il l'avait beaucoup aimé. Puis, je sais pas pourquoi, j'arrêtais pas de reporter ce livre-là en me disant, oh, je le lirai plus tard. Puis là, j'étais tellement en manque de lecture, puis je voulais quelque chose qui m'accroche, mais pas dans la niaiserie à la Portolan. Je sais pas si vous comprenez, j'avais besoin de quelque chose pour me sortir, mais dans lequel je plongerais vraiment. Puis, j'avais en tête qu'elle l'avait lu et beaucoup aimé. Puis, quand je lui en ai parlé, elle a dit « Je l'ai détesté, je l'ai abandonné au bout de 30 pages. » Vraiment rire, parce que moi, quand elle m'a dit ça, j'étais déjà accrochée. Puis, je continue ma lecture avec beaucoup de bonheur. Je suis contente d'avoir pris ce livre-là après la nuit, parce que c'est tellement chargé, il y a tellement de personnages, il y a tellement d'histoires d'aller-retour que j'oublie de la nuit un peu. Alors, ça me fait grand bien. Portolan, ben, je le recommencerai probablement quand ça sera son moment, mais je peux vous assurer que son moment n'était pas venu après la nuit.
Il fallait
pas être là-dedans.
Ouais.
J'étais trop dans l'horreur pour tomber dans la si grande légèreté, je pense.
Le clash entre les deux était trop profond.
Ouais. Tu sais, je veux pas faire d'analyse là-dessus sur mon propre cas, mais vraiment, je lisais ce livre-là, puis je disais non. Parle-moi pas de ça, non. OK, et voilà.
Je comprends. Ben merci, Josée. Moi, je veux faire juste une toute petite parenthèse parce que moi et Maps, on a parlé très longtemps du show Chicago sur l'épisode de Les gens fidèles ne font pas les nouvelles. On n'a presque pas parlé de ce livre-là, puis on a plus parlé de Chicago. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter cette conversation-là. Mais il y a juste une affaire que j'ai dit, puis en fermant le micro, moi, j'ai comme la... Moi, je fais de l'anxiété. Hein? Fait que quand je ferme le micro, des fois, je me dis « Ah non, là, j'espère que... » J'ai comme la phobie d'être mal interprété. J'ai parlé du fait qu'il y a certains membres du cast qui ont un accent qui fait en sorte que, avec la musique et avec le show, fait en sorte que tu as comme quelques secondes pour dire ta ligne. Des fois, on comprenait mal les gens. Je veux juste que ce soit clair que le défaut ici n'est pas l'accent des gens. L'accent est le fun, c'est beau, c'est coloré, c'est le fun. Le défaut que j'avais avec par rapport à ça, c'est la musique qui était trop forte par-dessus, puis le temps qu'il y avait pour répondre. Là, je suis allé le voir à Québec. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais en ce moment, c'est comme ben c'est ça. La machine est bien huilée, puis ça tourne bien. Puis là. Quand les gens parlent, la musique est vraiment moins forte. On entend bien. Honnêtement, j'ai entendu tous les mots de tous les membres du cast et j'ai pu apprécier tous les magnifiques accents qu'il y avait. Puis c'était beau, c'était le fun. Puis aussi, j'ai l'impression, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est plus punché, mais j'ai aussi l'impression que les gens avaient un peu plus de temps pour dire leurs lignes ou en tout cas les lignes qui sont importantes, là, qui font vraiment partie de l'intrigue. Donc, puis ça, autant les personnes dont le français n'est pas la langue première que les autres, là, tout le monde avait l'air... en même temps, tout le monde avait l'air confortable, puis en même temps, ça vient avec le fait qu'on s'approprie vraiment bien le texte, puis ça fait longtemps qu'on l'a, puis tu sais... Ouais. Tout ça ensemble faisait en sorte que le show est encore meilleur. Super! Mais l'autre chose dont je voulais parler, en fait, la vraie chose dont je voulais parler, c'est que j'ai continué après nuit. Je me suis tapé 3 jours de lecture difficile. Donc, après nuit, j'ai lu Low ou Dawn et Le Jour ou Day. Et c'est ça, je veux vous en parler parce que je trouve que ce sont des lectures qui sont très intéressantes. Ici, Nuit, on ne le sait pas. Mais ici, on ne fait même pas semblant que c'est autobiographique, là. Ici, on est dans la fiction. Ce sont deux narrateurs différents, deux narrateurs qui s'appellent Ellie aussi. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de les lire. C'est ça. Ce ne sont pas des livres qui se suivent. C'est des narrateurs différents, comme je disais. Puis ici, on est dans la fiction, mais c'est quand même tous des survivants de l'Holocauste. Et ici, on a, dans Dawn, on a un juif qui a survécu à l'Holocauste qui se retrouve, en fait, dans une cellule terroriste et il se voit confier la tâche de tuer un prisonnier. Et donc, c'est le juif qui se retrouve de l'autre côté de l'arme et... Tout le livre, c'est vraiment juste, ça aussi, c'est un petit livre, puis tout le livre, c'est vraiment l'espèce de débat intérieur qu'il y a. Est-ce que je suis capable de faire ça? Oui, mais ces gens-là ont commis tellement de violence envers les miens. Est-ce que moi, en retour, je veux? C'est ça, le lieu, l'importance de la vengeance ou la capacité de le faire, tout ça, c'est très intéressant. Et dans Le Jour, en fait, le narrateur a un accident de voiture. Puis, en fait, l'accident de voiture, ça aussi, c'est très méditatif, là. L'accident de voiture fait en sorte qu'il est freiné dans ses actions, puis il est beaucoup dans sa tête. Puis là, il se met à réfléchir sur comment vivre la vie après avoir survécu à l'Holocauste. Donc, tout ça, c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup moins violent, les deux autres, là, que Nuit. Puis, moi, c'est parce que je suis masochiste, là, mais vous êtes obligé de lire les 3 en 3 jours. Là. Vous pouvez prendre votre temps pour lire les autres. De toute façon, comme je le disais, ils ne sont pas interreliés, les livres. Et donc, voilà, c'était deux livres que j'ai trouvé très intéressants, puis je vous les conseille. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là. Nous, on se retrouve encore une fois. Ça va être la dernière fois qu'on va, en tout cas, ça va être la dernière fois cet été qu'on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que, en fait, après avoir vu le avant et le pendant, maintenant, on va voir le après avec Le Liseur. C'est le livre du mois de septembre. Spoilers, Maps a bien aimé ça déjà.
En 2018, j'y ai donné 4 étoiles, mais déjà en 2018, je donnais des étoiles. Qu'est-ce qu'il y en a de 2025?
Écoute, il va falloir être là pour savoir ce que tu en penses aujourd'hui. donc, j'ai envie de vous dire le dimanche 28 septembre, mais ça peut que ça change. On va voir rendu là. Mais restez sur mon compte Instagram, j'annonce absolument toutes les nouvelles par rapport au Club des Mentis. Merci d'avoir été là.
Merci à toi.
C'était une drôle de journée puis une drôle de conversation à avoir, mais importante, puis je suis content d'avoir eu avec vous.
Ben, merci d'avoir le courage de nous faire lire ça, Sylvain.
Ah ben, moi, c'est vraiment, comme je le disais, c'est vraiment égoïste, c'est vraiment un désir que moi j'avais. Fait que c'est moi qui vous remercie d'embarquer dans mes délires. Mais là, avant de devenir trop mièvre, on va mettre fin à cet épisode. Merci d'avoir été là.
Ciao.
À la prochaine. Ciao.